Notre invité ce matin est numéro 2 du parti Les Républicains, député de l'Ain et vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Bonjour Damien Abad.
Bonjour.
Et bonjour Jean-Jérôme Bertolus.
Bonjour Simon, bonjour Damien Abad. Bonjour. Alors deux motions de censure à l'Assemblée cet après-midi, dont la vôtre, celle des Républicains. Ce matin, sur France Info, Stanislas Guérini, député LREM de Paris, accuse l'opposition de sortir de son rôle. On l'écoute.
Ce qui, moi, me met en colère d'une certaine façon, c'est de voir l'état de jubilation de l'opposition ces derniers jours. Il faut raconter un peu comment ça se passe dans les coulisses de l'Assemblée nationale, dans les couloirs. Ils jubilaient. Cette affaire est pour eux un spectacle. Et donc ils sont bien loin, ils ne voulaient même pas avoir la vérité sur cette affaire. Ils voulaient déstabiliser le gouvernement. Ils voulaient nous faire mal. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis un an sur le fond des réformes, eh bien, ils veulent le faire à travers cette motion de censure.
Le porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée, il vous accuse de naufrage, l'opposition.
D'abord, quel mépris, quelle condescendance pour les oppositions en France, pour les contre-pouvoirs. Je rappellerai simplement à La République En Marche que la France est une république et qu'il y a des pouvoirs et il y a des contre-pouvoirs. Et que la difficulté aujourd'hui que nous avons, et c'est la colère aussi que j'ai, c'est que le Parlement est en train de devenir une chambre d'enregistrement. Parce que la vérité, c'est que les députés En Marche considèrent le Parlement comme un conseil d'administration d'une entreprise où on doit appuyer sur le bouton pour voter comme le président le demande. Ce n'est pas notre conception, ni de la République, ni du rôle du Parlement.
Mais Damien Abad, Stanislas Guérini, encore une fois, par exemple, il parle de l'affaire Benalla comme une affaire de corne-cul et il dit on n'a jamais vu une motion de censure sur une telle affaire. Et par exemple, bon, c'est vrai, c'est moi qui le rappelle, la dernière double motion de censure à l'Assemblée nationale, c'est vrai, c'est il y a longtemps, hein, en 1980, portait sur le financement de la sécurité sociale. C'est quand même quelque chose qui intéressait tous les Français à l'époque.
Oui, mais cette affaire révèle des dysfonctionnements à la tête de l'État, révèle aussi la manière dont on exerce le pouvoir politique aujourd'hui. Et derrière cette affaire, et d'ailleurs la question de M. Benalla, il y a l'exercice d'un pouvoir personnel, d'un pouvoir jupitérien par le président de la République. Il y a aussi, on le voit bien, des failles dans le système qui vient défier la police, qui vient défier les institutions, qui vient défier les corps intermédiaires. Et on voit bien que la France ne peut pas se gouverner tout seul. Et que donc c'est cela aussi, le but de cette motion de censure. C'est d'alerter l'opinion, c'est aussi de prendre le gouvernement à témoin et le président de la République en lui disant on ne peut plus continuer comme ça, parce que si on veut transformer la France, il faut le faire ensemble et pas simplement tout seul. Et c'est ça, je crois, l'enjeu de cette motion.
Damien Abad, ces deux motions ne seront pas adoptées. La République En Marche dispose d'une large majorité à l'Assemblée. Mais est-ce que ça peut être un tournant pour le quinquennat d'Emmanuel Macron? On posait la question ce matin sur France Info. J'ai envie de vous poser une autre question. Est-ce que ça peut être un tournant surtout pour l'opposition qui désormais va s'opposer?
Je crois que ce sera un tournant, en effet, parce que cette motion de censure, on va la présenter contre le gouvernement, et parce qu'on le voit très clairement, c'est la fin de la République exemplaire. C'est la fin du Nouveau Monde. Et finalement, qu'est-ce que nous disent les Français aujourd'hui? Mais Emmanuel Macron, il est comme les autres. Et la réalité, c'est celle-là. Et que donc, aujourd'hui, en effet, c'est un tournant, parce qu'il y a un changement dans la manière de faire de la politique, et je crois qu'on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer. Et donc, au-delà du simple cas de M. Benalla, eh bien, c'est cela qu'on doit révéler derrière.
Mais, Damien Abad, je vais poursuivre la question de Simon Le Baron. Les trois quarts des élus, des députés LR s'étaient abstenus il y a un an lors du vote de confiance pour Édouard Philippe, choisissant de ne pas voter contre. Aujourd'hui, donc l'opposition, et vous en particulier, vous sortez de l'ambiguïté, d'une relative bienveillance ou compréhension à l'égard du pouvoir exécutif.
D'abord, ce n'était pas une ambiguïté.
C'était quand on s'abstient lors d'une motion, motion de confiance, c'est ambigu quand même. Hein.
Non, c'était une manière d'exercer une opposition libre et responsable. En disant quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, nous on veut la transformation de la France, on le vote, on le soutient, c'est de notre responsabilité.
Mais aujourd'hui, vous estimez que rien ne va plus dans le bon sens?
Oui. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de cela, le pouvoir d'achat des Français s'érode. On voit bien que la France est la championne d'Europe des impôts. On voit bien que la CSG va continuer d'augmenter. On voit bien qu'on va avoir le sujet du prélèvement à la source à la rentrée. Et que donc, sur le plan économique et social, rien ne va plus. Et sur le plan politique, on perd tous les équilibres des institutions.
Alors, c'est un petit peu ambigu aussi, ces motions de censure à l'encontre du gouvernement. Parce que vos critiques, et on vient de vous entendre, elles portent d'abord sur Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, qui va s'expliquer? C'est Édouard Philippe, qui d'ailleurs n'a pas eu exactement le même ton que le président de la République dans toute cette affaire.
Oui, mais l'article 20 de la Constitution le dit très clairement. Le gouvernement conduit, détermine la politique de la nation. Le Premier ministre ne peut pas être simplement un supplétif du président de la République.
Et c'est que ce donc, qu'il est aujourd'hui.
Écoutez, c'est ce qu'il est malheureusement parfois, et je pense qu'il doit s'exprimer sur cette affaire. On doit comprendre aussi les ressorts qu'il y a dans les pouvoirs, et puis mettre en avant aussi les ministres devant leurs responsabilités, parce que la vérité, c'est que on a eu un Premier ministre absent, un ministre de l'Intérieur absent également, et un ministre des Relations avec le Parlement qui préférait aller dans les couloirs plutôt que dans l'hémicycle. Et d'ailleurs, il est entendu ce matin au Sénat. Je dis très clairement, on voit bien que... On ne peut pas être à la fois jugé parti, on ne peut pas être à la fois ministre des Relations avec le Parlement et dans le même temps président du premier parti qui est La République En Marche en termes de parlementaires. On voit bien que là, il y a quand même un sujet très important et cette affaire révèle ce dysfonctionnement.
Mais en même temps, si je puis dire, vous portez la voix, effectivement, vous haussez la voix, et c'est le moins qu'on puisse dire, contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement, mais les Français ne vous suivent pas, du moins dans les sondages. Emmanuel Macron, le président, n'a pas dévissé dans les derniers sondages.
D'abord, sa cote de popularité a bien baissé, mais au-delà de cela, vous savez, il ne s'agit pas pour nous de faire baisser ou de voir si les Français nous suivent ou pas. C'est une question...
Ben, quand même, vos électeurs, vos circonscriptions,
oui,
c'est important.
Mais qu'est-ce que nous disent nos électrices et électeurs? C'est que d'abord, leur situation économique et sociale, elle s'est détériorée. Ensuite, c'est que sur le plan de la sécurité, sur le plan de la politique, je dirais, de lutte contre l'immigration, eh bien, là aussi, il y a un sentiment de dégradation. Et au-delà de cela, il y a cette affaire Benalla. Certains nous disent, on en parle beaucoup, mais au-delà de cette affaire, ce qui intéresse les Français, c'est pas le cas personnel de M. Benalla, c'est de savoir ce que ça révèle et pourquoi la police est défiée. J'ai juste une question à vous poser. Comment se fait-il que le président de la République ait mis moins de 5 minutes pour écarter le général De Villiers pour une parole malheureuse et que dans le même temps, il ait gardé aussi longtemps à ses côtés, M. Benalla. C'est ça que les Français ne comprennent pas.
Damien Abad, vous restez avec nous, on va continuer d'évoquer avec vous, bien sûr, ces deux motions de censure déposées cet après-midi par les oppositions à l'Assemblée nationale. Allez-vous voter la motion de gauche? On va vous poser la question dans un instant, juste après l'info, à 8h40. Stéphane Milhomme.
La commission des lois du Sénat interroge actuellement Christophe Castaner. C'est à voir sur France Info, la chaîne 27 de la TNT, également sur notre site internet. Le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement condamne d'ores et déjà les agissements d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase. Le responsable de La République En Marche se dit personnellement choqué par ces images des premiers jours. Une nouvelle vidéo fragilise la défense d'Alexandre Benalla après ses violences du 1er mai à Paris. C'est à voir sur franceinfo.fr. Deux hommes ressemblant fortement aux collaborateurs d'Emmanuel Macron et à Vincent Crase, traîne un manifestant dans le Jardin des Plantes avant donc les événements de la place de la Contrescarpe. La SNCF promet une circulation des trains proche de la normale pour vendredi prochain. En attendant, elle annonce pour aujourd'hui un trafic de 2/3 de ses trains au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse. RTE a réussi hier à rétablir l'alimentation électrique de cette gare parisienne. Et puis en Californie, 40 000 personnes toujours menacées et d'évacuation face aux violents incendies de forêt. Les flammes ont tué au moins 8 personnes depuis jeudi dernier, plus de 38 000 hectares déjà réduits en cendres.
France Info. Notre invité ce matin est vice-président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Damien Abad.
Et ce matin, toujours sur France Info, André Chassaigne, qui va présenter la motion de gauche cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui est le président du groupe communiste, nous expliquait que les communistes ont décidé de voter la motion qui sera présentée par Christian Jacob, le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale. On l'écoute.
Je proposerai ce matin aux députés de mon groupe qu'on puisse voter aussi la motion des Républicains, parce que le texte en lui-même, effectivement, est assez proche de celui qu'on a pu écrire.
Vous allez voter, vous, pour la motion des députés de gauche?
Non. Parce que je n'aime pas la confusion des genres, je n'aime pas les alliances circonstances, et parce que je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Tous les votes sont les bienvenus, et chaque groupe est libre de cela, mais nous en débattrons ce matin en réunion de groupe, mais je vous le dis dès maintenant, à titre personnel, en tout cas je ne voterai pas cette motion, parce que je n'ai rien en commun avec l'extrême-gauche, et que je crois qu'il faut que les choses soient claires.
Et avec l'extrême-droite ?
Non plus, bien entendu.
Et vous allez tenter de convaincre, vous êtes numéro 2 du groupe, on le rappelle, vous allez tenter de convaincre les autres élus LR, plus d'une centaine, effectivement, de ne pas voter cette motion de gauche?
Oui, c'est une position que je défendrai aujourd'hui au sein du groupe, parce que je crois que l'avantage, c'est que nous avons deux motions de censure, et que chacun doit défendre sa motion. Je rappelle que nous sommes le seul groupe politique à avoir plus de 60 parlementaires dans l'opposition et que donc nous pouvons la déposer seul. Nous avons déposé cette motion seul pour justement éviter la confusion des genres, éviter les alliances de circonstances des oppositions. Bien sûr qu'il y a sur le texte, il y a des choses, des points de convergence, mais je crois que les Français ne comprendraient pas cela. Je crois qu'on doit défendre notre motion, notre position, l'opposition de droite, elle ne porte pas les mêmes valeurs que l'opposition de gauche.
Mais rien ne distingue, en tout cas quand on les lit rapidement, rien ne distingue les deux motions.
Oui, mais au-delà du texte de la motion, vous savez aussi comment cela sera interprété. Et je ne veux pas faire ce cadeau-là à La République En Marche.
Alors effectivement, toute cette affaire a montré aussi une chose, eh bien, c'est le retour en quelque sorte du Parlement. Vous vous en félicitez ?
Oui et non. Oui, c'est une sorte de retour du Parlement, parce que on voit l'utilité d'avoir des contre-pouvoirs en France, mais dans le même temps, on voit la difficulté d'avoir un vrai travail parlementaire. Regardez comment les conditions dans lesquelles cette commission d'enquête se déroule, des auditions qui ne sont pas faites, des députés qui peuvent pas s'asseoir, un manque de transparence. Donc on voit bien que c'est un peu la transparence à deux vitesses. On a d'un côté des lois qui ont été renforcées pour que les parlementaires rendent des comptes, et de l'autre, à l'Élysée, finalement, on n'a pas ce même rendu. Et donc, je trouve que c'est dommage d'avoir cette transparence à plusieurs vitesses.
Alors, la majorité parle de revanche du vieux monde, en quelque sorte. Est-ce que vous parleriez de revanche de l'expérience politique ?
Non, mais d'abord, c'est surtout l'échec du Nouveau Monde. Et on voit bien que quand on veut incarner le Nouveau Monde avec des pratiques du 19e siècle, forcément, ça interroge. La réalité, c'est que c'est un débat dépassé. La réalité, aujourd'hui, c'est que il s'agit pas de savoir si on a plus d'expérience, de modernité ou autre. Ce qui compte, c'est la manière dont on exerce sa responsabilité et dont on voit son rôle de député. Et moi, je considère qu'un député, d'abord, il doit avoir un lien avec le territoire, ce qui est le contraire de La République En Marche. Je considère ensuite qu'un député, il n'est pas là simplement pour être un député godillot, il est là aussi pour voter en fonction de son âme et conscience, dans l'intérêt du pays également.
Vous diriez, vous aussi, comme le disent certaines voix dans l'opposition, dans les oppositions, que les parlementaires de La République En Marche déshonorent et humilient le Parlement ?
Non, vous savez, les mots ont un sens en langue française, et vous avez aussi des gens de talent dans ces députés-là. Ce que je dis simplement, c'est qu'en tant que groupe politique à l'Assemblée nationale, on a un groupe politique qui, pour moi et selon moi, n'exerce pas cette responsabilité qui était d'avoir un rôle de veille, un rôle aussi d'application de la loi, de contrôle de la loi et un rôle aussi d'élaboration de la loi et pas simplement une chambre d'enregistrement.
Puisque les mots ont un sens, Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, porte plainte pour injures racistes, notamment sur Twitter. Est-ce que vous regrettez certaines critiques à l'Assemblée, un peu vive à son encontre ?
Vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et moi, je ne suis pas pour la critique facile, pour la polémique stérile ou pour les mots, finalement, qui seraient trop agressifs. Je pense que le Sénat nous montre bien qu'on peut travailler dans la sérénité. Mais la réalité aussi, c'est que je regrette les blocages que nous avons eus. Pourquoi on n'a pas eu l'audition, par exemple, de M. Castaner ? Et les Français ne comprennent pas ce deux poids deux mesures entre la commission des lois au Sénat et celle de l'Assemblée nationale.
Rapidement, une question. Le gouvernement va sortir affaibli de toute cette affaire. Est-ce que, avec l'agenda très chargé qu'il va avoir à la rentrée, hein, je pense aux toutes les réformes sociales, au budget, hein, 30 milliards d'économies, est-ce que effectivement il va être handicapé à la rentrée ?
Mais le gouvernement est déjà très faible et quasiment inexistant. Et c'est bien le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que oui, ça va être difficile à la rentrée. Parce que quand vous voyez l'augmentation de la CSG, quand vous allez voir le sujet du prélèvement à la source, qui fait que le salaire net des Français va diminuer, bien sûr que la rentrée sociale sera dure, parce que la désertification médicale est toujours là, parce que la crise dans les EHPAD et les hôpitaux de proximité est toujours là, parce que rien n'est fait sur la politique du handicap, parce que peu de choses sont faites finalement dans les réformes. Et qu'est-ce que les Français sont en train de comprendre ? Que le macronisme, c'est une illusion. Et que finalement, on fait des annonces fortes pour des réformes légères.
Et est-ce qu'à travers cette affaire, vous allez réussir à convaincre vos amis de l'opposition, vos amis LR, au Sénat, de ne plus soutenir la réforme constitutionnelle ?
Moi, je pense qu'on doit en tirer les leçons de cette affaire. Et c'est au gouvernement, au Premier ministre, de prendre...
Oui, mais c'est à vous aussi,
oui.
C'est à vous, LR,
moi,
je souhaite
que cette réforme constitutionnelle soit ajournée. Et je souhaite que les sénateurs LR prennent leurs responsabilités.
Que Gérard Larcher, le président du Sénat, prenne ses responsabilités.
Mais Gérard Larcher prend toujours ses responsabilités.
En soutenant la réforme.
Mais non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a mis un certain nombre de bornes, il a mis un certain nombre de marqueurs rouges, et vous ne ferez pas le match de la division entre la droite sénatoriale et la droite à l'Assemblée nationale. La réalité aujourd'hui, c'est que moi je demande à ce que cette réforme soit ajournée, parce qu'on voit bien l'utilité du Parlement, et personne ne veut d'un Parlement muselé et bâillonné, comme le propose cette réforme, qui pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, est une réforme qui abaisserait les droits du Parlement.
D'un mot, vous soutenez effectivement le souhait commun de Gérard Larcher, le président du Sénat, et François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, d'amender le projet de révision constitutionnelle dans le sens où le Parlement devrait pouvoir convoquer un ministre pour qu'il s'explique sur tel ou tel sujet, tel ou tel dossier.
Je crois qu'il faut renforcer la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et que cette proposition est intéressante, elle doit être mise sur la table. Il peut aussi y en avoir d'autres. Aujourd'hui, on voit bien que quand le gouvernement ne veut pas venir, il ne vient pas. On a pourtant l'article 50-1 de la Constitution qui permet au Premier ministre de venir s'expliquer, par exemple sur l'affaire Benalla, sauf que ce n'est pas appliqué dans les faits. Donc oui, il faut des moyens de renforcement de cette responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement, parce que comme ça existe dans d'autres pays en Europe et d'autres pays dans le monde.
Pour vous, toute cette affaire Benalla, finalement, ça montre quoi? Une dérive présidentielle des institutions de la Ve République?
Ça montre une dérive autoritaire du pouvoir. Ça
autoritaire?
Oui.
C'est quand même un mot fort compte tenu de l'environnement aujourd'hui en Europe.
Oui, mais c'est la réalité. Malheureusement, c'est que sur quoi a été élu Emmanuel Macron? Sur la promesse de faire travailler ensemble des gens d'horizons politiques différents. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que on vit dans un parti unique où finalement, quand on ne pense pas de la même manière, eh bien, on n'a pas d'existence politique. Donc c'est le contraire de la promesse électorale. Donc le macronisme, on a cru que c'était l'ouverture aux autres, et en fait c'est le repli sur soi, et c'est ce que l'on constate malheureusement tous les jours.
Mais encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être par le président de la République, eh bien il est dans cette constitution de la Ve République, est-ce qu'il n'y a pas effectivement une dérive présidentielle de cette constitution?
Moi, je souhaite, vous savez, la constitution de la cinquième, c'est un élément de stabilité. Regardez ce qui se passe dans les autres pays, en Italie et autres en Europe. On voit bien que la Cinquième République a résisté et je défends la Cinquième République. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ici ou là l'adapter, mais ce que je regrette, c'est pas la présidentialisation du régime. Ce que je regrette, c'est quand le président de la République sort de son rôle. Quand il écarte Manu Militari, le général de Villiers, il sort de son rôle. Quand il défie la police, il sort de son rôle. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui.
Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain, numéro 2 du parti et vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Merci d'être venu nous voir sur France Info ce matin.
Merci.
C'est votre chef de file, Christian Jacob, qui défendra cet après-midi à l'Assemblée nationale la motion de censure portée par votre camp. Merci à vous.